Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités de Génération Do It Yourself passés et à venir afin de comprendre comment ils gèrent la crise de chez eux et d'augmenter ainsi notre moyenne en temps de crise. Alors, je suis aujourd'hui évidemment à distance, toujours, avec un invité de choix, un très grand professionnel de la livraison, de la logistique, que je connais depuis quelques temps maintenant. Salut Mickaël.
Salut Mathieu.
Alors, Mickaël Lévy, Mickaël Sidney Lévy, puisqu'il y a pas mal de Mickaël Lévy, j'imagine que c'est aussi ta petite manière d'être... distinct, notamment sur les réseaux sociaux. Toi, tu es le boss de Delivery, alors on dit, ou Delivery, enfin voilà, je le noterai, c'est Deliver. Alors l'URL, c'est Deliver.ee, je me trompe ?
C'est ça, ça se prononce Delivery.
Delivery, voilà. C'est juste que les gens vont chercher. Je distingue le deliver et le i, puisque sinon on risque de pas trouver forcément la bonne chose sur Internet. Mais on mettra les liens partout. Évidemment, la livraison, le dernier kilomètre, hein, on appelle ça, est un business qui a été lourdement impacté par le confinement. Est-ce que tu, juste avant que tu nous expliques cet impact chez toi et tout, tes, tout ton écosystème, est-ce que tu peux avant me dire ce que vous faites exactement chez Delivery que tu as fondé il y a 4-5 ans maintenant?
Bien sûr, merci. Alors chez Delivery, on propose des solutions de livraison, des solutions à la fois technologiques et à la fois réelles, entre guillemets, opérationnelles. Et notre spécialité, c'est la livraison au départ des magasins pour les commerces.
D'accord, donc je suis un magasin de, je sais pas moi, imprimeur, et je veux livrer mes clients en période de confinement. Et ben, je fais appel à Delivery et toi, tu gères tout de chez eux à chez leurs clients, c'est ça ?
Exactement, ils ont à la fois les commerçants des outils pour pouvoir passer des commandes de livreurs et en même temps accès à un énorme réseau de livreurs professionnels. On a construit un très gros réseau chez Delivery de sous-traitants qui sont des boîtes de courses professionnelles, mais aussi les plateformes start-up qu'on a connectées à notre système. Et donc, ça permet de proposer aux commerçants, qu'ils soient indépendants comme le primeur dont tu parles ou des magasins sous enseigne nationale, de faire de la livraison le jour même sur créneau choisi par leurs clients du magasin directement chez le destinataire à son domicile.
Et donc, ça, c'est fait... dans plein de villes en France et à prix fixe ou c'est le prestataire qui fixe son prix sur ta plateforme ?
Non, nous sur notre modèle chez Delivery, ce sont des prix qui sont négociés avec les prestataires partenaires et ensuite on a une grille tarifaire face client, donc face commerce si tu veux, en fonction non pas de l'agglomération de la ville parce que les prix sont les mêmes partout. Mais d'accord. En fonction du type de véhicule, de la vitesse à laquelle on veut que ça livre, de la finesse du créneau, en gros, c'est à peu près tout. Et puis, des services et des prestations complémentaires, type il faut qu'ils viennent avec un équipier, s'il faut que ce soit du frigorifique, s'il faut que ce soit un aller-retour, etc. Toutes les options.
D'accord, parce que tu fais autant... donc, quand on parle commerçant, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé alimentaire, parce qu'en ce moment, c'est peut-être la première nécessité de tout le monde, mais tu peux faire aussi des meubles ou des vêtements.
Exactement. La force d'un réseau, la force du réseau Delivery, c'est qu'on a agrégé une multitude de prestataires qui ont des véhicules et des services différents. Et donc, en les agrégeant, on peut offrir tout type de service et tout type de livraison à tout type de commerce. Donc, effectivement, ça peut être aussi bien l'ameublement, que ça peut être de la jardinerie, que des articles de sport, que de l'alimentaire, que de la food. Voilà, c'est sans limite.
Donc, maintenant qu'on comprend à peu près ce que tu fais... on peut se dire, avec une majorité de commerces fermés, justement hors alimentaire et première nécessité, finalement, ça peut être assez catastrophique pour ton business. Qu'en est-il, mon cher Mickaël ?
Alors, c'est ce que je me suis dit les premières heures des annonces du gouvernement, parce que effectivement, à peu près la moitié de nos enseignes clientes, ce sont des gens qui vendent des produits qui ne sont pas de première nécessité. Donc, des plantes, des fleurs, des vêtements, de la maroquinerie, des meubles, des articles de sport encombrants, etc. Et donc, je me suis dit, moi, perso, oula, voilà venir la catastrophe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, effectivement, tous ces magasins-là sont fermés. Et encore, je suppose qu'on va en parler ensemble, mais c'est très système D, hein, finalement, quand on a besoin de faire du business. Donc, il y a beaucoup d'enseignes qui vont réouvrir sous certaines conditions et organisations différentes. Mais bon, effectivement, la moitié de mes clients qui sont des enseignes de pas de première nécessité sont fermées. Et de l'autre côté, on a des enseignes clientes chez Delivery qui sont des enseignes qui font de l'alimentaire, des courses, des supermarchés. Et là, ils sont bien entendu ouverts et ils font face à un pic de demande énorme et en même temps une pénurie de soit de préparateurs de commandes, soit de vendeurs en magasin, soit de même de livreurs, puisque leurs employés livreurs pour certains sont arrêtés. D'autres enseignes ont fait appel à des prestataires qui ne peuvent plus tourner, qui sont en chômage partiel ou qui sont en activité zéro. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une offre et une demande qui sont totalement déséquilibrées. C'est ça que la période de confinement et la crise ont généré. C'est un déséquilibre total de l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'il y a une énorme demande, il y a une énorme offre, mais elle se rencontre plus.
Oui, parce que mais j'imagine que l'offre baisse quand même. C'est-à-dire que t'as plus autant. Évidemment, faut le remettre en phase de. Si je reste sur du frigorifique ou en effet tout ce qui est ceux qui sont très habitués à de l'alimentaire, finalement, eux, ils voient leur demande exploser, mais ils ont pas forcément autant de chauffeurs livreurs que d'habitude.
Exactement. Et de l'autre côté, sur les non-alimentaires, tu as une énorme offre de prestations de livraison et de courses, mais la demande n'est plus là, c'est zéro.
Ouais, donc t'as une sorte de. Toi, dans ton business, t'as deux business et tout a. Est-ce que t'arrives à peut-être réorienter une partie des gens qui faisaient. Enfin, c'est peut-être pas évident, j'imagine, mais dans des circonstances exceptionnelles, qui faisaient du non-alimentaire à faire de l'alimentaire, c'est possible
C'est exactement ce qu'on a fait.
Ouais, d'accord.
C'est exactement ce qu'on a fait. On a des clients dans l'alimentaire qui nous demandent plus de livreurs, plus de livraisons. Et on a des livreurs et des transporteurs qui nous disent plus de livraisons, s'il vous plaît, plus de livraisons, parce qu'on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Nos autres clients, parce que nous, on n'a pas de prestataires qui travaillent que pour nous. Ce sont des boîtes qui existent déjà et qui s'inscrivent dans le réseau Delivery, en fait. Et donc, leurs autres clients, ces boîtes-là, il y en a pas beaucoup comme nous, donc c'était plutôt des entreprises qui faisaient des gens qui faisaient de la messagerie entre bureaux, ce genre de choses, et là c'est activité zéro, donc ils sont retournés vers nous en disant pitié, donnez-nous de la demande, et puis on avait la demande qui nous disait pitié, donnez-nous de l'offre, et donc on a rerouté les gens en fait en quelque sorte pour que l'offre et la demande se rencontrent à nouveau.
D'accord. Mais là-dedans aussi sur le l'offre, il y a quand même des prestataires qui ont une tentation potentiellement assez grande, à raison, hein, je jette pas la pierre, mais d'utiliser des mesures de chômage partiel, finalement, qui sont de se dire, je vais plutôt mettre mes chauffeurs ou mes équipes au chômage partiel, puisqu'il y a cette mesure qui est disponible, plutôt que de me battre pour essayer d'aller trouver du business pour continuer à livrer.
C'est possible et c'est sûrement le cas dans certaines entreprises. Le problème, il est double chez des gens qui font du transport, c'est que un, les salaires dans le transport, ils sont tout petits et donc chaque euro compte. Et donc les salariés préfèrent travailler que d'être au chômage partiel avec un revenu partiel. Ça c'est un. Deux, dans ce genre de métier, quand on arrête de tourner pendant quelques semaines, quelques mois, c'est pas garanti que les clients ils sont encore là quand on réactive. Ce qui doit être le cas avec plein d'entreprises, hein, mais dans notre métier, en tout cas, il y a un risque effectivement que qui va à la chasse perd sa place entre guillemets.
Ouais, et puis il y a aussi entre guillemets potentiellement, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais un carnage potentiel de se dire si je soutiens pas cette activité finalement, mes restaurateurs, mes primeurs, ils risquent aussi de fermer et puis finalement à la fin plus personne n'aura de business quoi.
Exactement.
Une sorte de responsabilité collective à faire tourner les choses que je défends énormément au travers des épisodes notamment. Hein, mais
C'est ça, il faut que les flux continuent, il faut que l'activité continue, il faut que les chiffres d'affaires soient générés pour que ce cercle vertueux persiste. Sinon, s'il y a un des maillons de la chaîne qui s'arrête, c'est toute la chaîne qui s'effondre et ça va faire vraiment des catastrophes, clairement.
Alors ça, pour moi, c'est entre guillemets pas plus facile en termes de business, mais plus facile en termes de responsabilité peut-être que pour toi, parce que moi, je travaille avec une population de partenaires, mais aussi mes collaborateurs sont confinés et j'ai pas allé si un client déjà légalement je crois pas mais il nous demande de nous voir en physique, nous c'est non quoi. On va pas au bureau et puis on bosse à distance et puis on se retrouve sur Zoom ou ailleurs, Hangout ou Google Meet et basta. Mais toi t'as quand même cette approche, c'est faire tourner le business, ça veut dire continuer à justement sortir de chez toi, aller chez le primeur, déposer ailleurs, aller dehors, rencontrer du monde. Évidemment, tu y as pensé, mais c'est quoi les enjeux là-dessus et qu'est-ce que vous avez fait pour protéger vos chauffeurs, livreurs et toutes les personnes qui sont dans la chaîne autour de Delivery?
Oui, effectivement, on a une responsabilité parce que c'est quand même des gens qui sont en risque, parce que même si, comme on dit, ils sont pas en première ligne, ils sont quand même en deuxième ligne, c'est-à-dire qu'ils ils fournissent l'alimentation aux gens qui en ont besoin à domicile. Donc, ils sont exposés, ils se déplacent d'un point à un autre, et puis après, ils sont face à des portes, à des surfaces, etc., qui doivent toucher pour amener les marchandises. Donc, on a fait plusieurs choses pour essayer de minimiser les risques. Déjà très très tôt, on les a sensibilisés aux gestes barrières qu'il fallait qu'ils les appliquent à tout prix. Dès la semaine avant le confinement, déjà on avait commencé. Ce sont très très simplement des directives qu'on leur transmet de plusieurs façons. La plupart des partenaires qui sont dans notre réseau de transporteurs, ils ont l'appli mobile de Delivery sur leur téléphone. Mmh. Et donc on leur pousse des notifications et ils ont des écrans récurrents qui leur rappellent de faire des pauses pour se laver les mains, de se procurer des gels, des masques et des gants. On a aussi désactivé la signature sur le téléphone, la preuve de signature numérisée sur le téléphone, sur le mobile, à l'enlèvement et à la livraison. Donc on a mis en place la livraison sans contact dès la semaine précédente, la semaine du confinement. Là, c'est des procédures, c'est des relances, c'est des rappels. Ils téléphonent ou ils sonnent à l'interphone quand ils sont arrivés. Et puis le destinataire répond présent, il laisse la commande devant la porte. Il n'y a pas d'interaction, il n'est même pas question d'avoir 1 mètre ou 2,50 mètres ou 1,75 mètres, peu importe de distance. On n'ouvre pas la porte tant que la commande n'est pas déposée et que le livreur n'est pas parti. Donc ça, c'est ce qu'on demande d'exécuter, entre guillemets, comme procédure à nos partenaires transporteurs. On n'est pas capable, de manière logistique, très concrètement, de leur fournir, nous, des masques et des gants. Alors, c'est pas notre responsabilité légale, puisque ce sont des sous-traitants, hein, ce ne sont pas nos employés. En revanche, on leur recommande de s'en procurer. On essaie de trouver des pistes pour qu'ils puissent aller en acheter. C'est pas évident d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet, hein, la pénurie de masques, c'est quelque chose de plus global, je pense, pour tout le monde. Donc les procédures ont été ajustées. La livraison sans contact, elle est systématique. Les gestes barrières sont rappelés régulièrement sur l'application. On envoie des notifications push. Ils reçoivent des newsletters. Il y a des écrans interruptifs sur l'appli, etc.
Ouais, sachant que ça doit pas, j'imagine, toujours être évident. Tu parlais un peu de responsabilité, tu disais dans la chaîne de valeur, en effet, souvent, donc pour le rappeler, toi, tu as souvent des prestataires qui sont des entreprises qui elles-mêmes ont des employés qui sont livreurs ou chauffeurs-livreurs, mais c'est pas forcément des indépendants ou assez non. Peu finalement. D'accord. Et donc c'est aussi en grande partie la responsabilité de ces entreprises de faire tout ça. Et je rappelle aussi que, parce qu'en préparant cet échange, Michael, tu m'avais dit de l'importance aussi de la tâche de ces personnes, c'est-à-dire que on parle pas encore une fois de livrer des colis H&M ou Zara, hein. On parle quand même de temps en temps, voire très souvent, de livrer aussi à des personnes qui n'étaient pas habituées à être livrées auparavant, ou en tout cas de la sorte. Tu me parlais de personnes du troisième âge, je sais pas si tu livres des EHPAD, mais enfin, il y a vraiment aussi des personnes à mobilité réduite, enfin des gens qui peuvent pas forcément facilement trouver des moyens autour du confinement pour pour s'alimenter ou pour leurs premiers besoins.
Oui, tout à fait. On livre aussi bien des courses alimentaires à des clients d'enseignes qui ne veulent pas se rendre en magasin, donc on les livre à domicile. Déjà, je pense que de faire de la livraison à domicile plutôt que de se rendre dans les magasins, c'est un acte citoyen parce qu'on minimise les interactions et on minimise les, entre guillemets, attroupements. Et donc, c'est une des clés de la sortie de crise, c'est de ne pas se côtoyer le plus proche possible et le plus nombreux possible pour pas qu'il y ait de transmission de virus malgré nous. Et encore plus, vu que personne n'est équipé de masques et de gants ou très peu de gens, c'est très facile de se transmettre en fait le virus. Donc, déjà, je considère que la livraison à domicile, c'est un acte qui est meilleur l'acte de se rendre en magasin. Deux, on livre effectivement des gens qui ne peuvent pas se rendre en magasin, comme des seniors, des gens qui sont au 7e étage sans ascenseur, qui déjà se faisaient livrer à domicile par leurs enseignes qui sont en bas de la maison parce qu'elles peuvent pas porter des packs d'eau, etc. Avant le confinement, c'était des personnes âgées qui descendaient au Franprix du coin pour les nommer et qui faisaient leur caddie parce qu'ils aiment bien choisir dans les rayons. C'est quand même un petit moment de détente et de divertissement, entre guillemets, de faire les courses. Et puis ensuite, qui disaient au monsieur ou à la dame à la caisse, s'il vous plaît, livrez-moi à la maison comme d'habitude. Et puis là, il y avait un livreur qui était dépêché automatiquement de notre système par la caisse de Franprix. Et puis, le jeune livreur montait les étages à la place de la personne âgée. Là, c'est carrément de la commande Internet. Il y a même une enseigne qui a mis en place une plateforme téléphonique pour les personnes qui sont confinées à domicile et qui ne peuvent pas vraiment se déplacer. Et les commandes sont passées au téléphone et puis il y a des livreurs qui sont dépêchés dans les magasins qui viennent livrer.
Donc, peux le citer chez moi, hein. Moi ça me va très bien, ça m'est égal.
Franprix fait ça. Il y a aussi des franchisés de plusieurs enseignes qui sont regroupés, qui ont créé des groupes WhatsApp et des numéros de téléphone uniques pour passer la commande au téléphone ou par WhatsApp, parce que ça va encore plus vite que de déployer une solution de e-commerce en fait, d'avoir juste un numéro de téléphone et puis ou un groupe WhatsApp et puis de prendre les commandes et ensuite on se débrouillera pour le paiement avec des paiements avec des liens, ce genre de choses, ou un TPE même en 4G. Ils essaient de trouver des solutions un peu des hacks en quelque sorte. Et puis il y a aussi des enseignes qui sont un peu historiques, qui font de la vente par correspondance, je pense notamment aux surgelés, comme Tout par Gel, par exemple, où là, au départ de leurs 112 agences en France, il y a des milliers de seniors qui, toutes les semaines, passent des commandes au téléphone de surgelés qui se font livrer. Et là, il y a besoin de renforcement, de renfort.
D'accord. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, parce que je te disais, justement, mon primeur, il prend désormais, tu peux plus rentrer dans le primeur, il te dit, il faut faire des commandes par email, quoi. Et donc, t'envoies un email, tu lui dis, je voudrais 2 kilos de pommes, 2 sachets d'1 kilo de carottes, etc., etc. Et puis il dit, c'est bon, c'est prêt à midi 15, t'arrives à midi 15, midi 30, enfin, à partir de voilà, et tu le payes et tu repars, quoi. Et en effet, on voit tu parles de ces groupes WhatsApp et de toutes ces choses-là qui sont allées à une vitesse folle, mais en effet, la digitalisation à marche forcée est un phénomène très 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 intéressant.
Ouais, c'est la force des humains, c'est que quand il y a une urgence, quand il y a un danger, l'humain est capable de trouver des solutions à mettre en place très rapidement. Alors que quand on est dans le confort habituel corporate des projets, ça prend un peu plus de temps pour déployer une solution, tu vois, type par exemple le Ship From Store, la livraison des parts magasin. Là, il y a le feu, il faut le faire de toute façon, on prend des courts-circuits. De toute façon, le corporate, les chefs diront d'accord, parce que c'est capital, il faut que l'activité tourne, il faut que les clients soient servis. Donc, ça accélère beaucoup et peut-être qu'on peut en parler aussi un peu plus dans la conversation, mais cette pandémie est finalement un accélérateur de la transformation des comportements des consommateurs qu'on voyait progressivement arriver là depuis quelques années sur le digital. Là, à la fois les commerces et à la fois les clients, ils veulent se digitaliser le plus vite possible, quoi.
Ouais, mais et tu le dis, c'est une accélération pour le consommateur. Mais pour moi, c'est alors qui suis, je pense là pour le coup plutôt véloce sur ce genre d'évolution de comportement. C'est aussi l'accélération de ce primeur. Ce que je veux dire, c'est que moi, il y a un moment où en fait, tu vas plus chez ton commerçant du coin parce qu'en fait. tu vois, passer mon samedi matin, même si c'est sympa, même si t'as des trucs, mais en fait, quand t'as des enfants et des choses comme ça, passer ton samedi matin à faire la tournée du truc pour faire tes courses, en fait, finalement, Amazon Prime, c'est quand même pratique, quoi. Et donc, en fait,
ouais, mais
quand tu peux très... envoyer un email pour dire juste, tu l'as, ta liste de courses, tu sais que tu vas vite faire regarder sur Yuka pour savoir quels sont les fruits et les légumes de saison, tu les regardes, tu te les rajoutes, tu dis, tiens, je prends ça, et puis qui te le prépare et que t'arrives, t'as juste à payer, bah, c'est sympa, ça, bon, ça coupe un peu de contact, peut-être, mais c'est plus rapide. Et why not, tu vois, il y a aussi un peu une digitalisation du côté des prestataires, d'un certain nombre de personnes. Et moi, je trouve ça plutôt bien parce que ça fait fonctionner le commerce de proximité, quoi.
Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi. Parce que je pense que toi tu es très très digitalisé, toi.
Ouais.
Et donc, et tu en plus tu es parisien, tu es dans une grande ville. Et donc nous autres, les habitants de grandes villes, on a le réflexe je me fais livrer à la maison. Qu'est-ce que je m'enquiquiner à apporter des choses, à faire la tournée des commerces. C'est pas comme ça dans toute la France.
En région, et d'ailleurs, le réflexe drive.
Ouais, oui, mais le réflexe drive, il faut s'y rendre. Alors tu peux être quelqu'un qui est très organisé dans la vie, une maman avec plein d'enfants, et tu anticipes et donc tu fais une commande drive pour retirer ça le jeudi soir en rentrant du travail, ok. Mais c'est pas le cas de tout le monde non plus. Il y a des gens qui sont loin des drives et donc il y a la livraison à domicile est peut-être existe peut-être dans leur zone, mais ils y pensent même pas. C'est pas un réflexe. Seulement 10% des courses alimentaires se fait en ligne, enfin se faisaient en ligne avant le confinement. Alors, j'ai pas encore les stats vraiment là depuis 3 semaines, mais j'ai vu des x3 moi chez certaines enseignes, donc sur la livraison à domicile. En même temps, je n'ai pas vu les stats de toutes les chutes de fréquentation en magasin, donc je peux pas voir si ça compense, si ça dépasse. Bref, je pense que nous, toi et moi, comme on est en grande ville, on a un réflexe, on veut pas porter les packs d'eau, on veut se faire livrer à la maison parce qu'on a pas envie de perdre du temps, etc. Mais pour d'autres, aller au marché le samedi matin en famille, c'est génial. On voit les produits en vrai, les enfants ils peuvent prendre l'air, on se promène, on se balade. D'autres veulent avoir un peu de sociabilisation, d'autres veulent voir les produits en vrai. Enfin, il y a 50 000 raisons de ne pas faire ces achats en ligne, ces courses en ligne. En revanche, je pense que cette période de confinement, ce qui se passe, c'est que l'adoption est accélérée et que derrière, ça va perdurer. Et effectivement, là où tu as raison, c'est côté commerçant, il y a eu une adoption forcée et donc bah, ils s'y sont mis parce que sinon ils sont fermés et ils ont aucun client qui vient dans leur boutique. Et tu vois, les restaurateurs, c'est pareil. S'ils ouvrent juste leur cuisine pour préparer de la nourriture, pour ensuite faire que de la livraison et pas de recevoir des clients, leur restaurant peut encore vivre et pas mourir.
Ça, tu fais aussi la livraison de restaurant, ouais.
C'est pas mon cœur de métier, mais on a certains restaurateurs qui nous confient des livraisons. On fait beaucoup aussi de pro bono où on accompagne l'initiative de Deliveroo avec beaucoup de restaurateurs pour livrer des repas gratuits aux soignants dans de nombreux hôpitaux en Île-de-France et en province maintenant depuis la semaine dernière. Très bien. Donc effectivement, bah, on a des gens de notre réseau qui sont des livreurs professionnels. Ils vont chercher chez les restaurateurs qui offrent les repas gratuits et ils vont livrer tous les jours, midi et soir, les hôpitaux pour que le personnel soignant soit ait un peu de comfort food parce que bon, ils ont peut-être de quoi se nourrir, mais là c'est surtout qu'on pense à eux quoi, et qu'on leur donne plus que ce qu'ils devraient avoir, je pense.
Et juste pour comprendre la chaîne de valeur du pro bono, c'est tout le monde qui est pro bono, Delivery, Deliveroo, le restaurateur et le livreur ou...
Alors je parle pour mon compte et pour ce que je sais, les restaurateurs offrent les repas.
D'accord.
Ils l'ont dit. Deliveroo, je suppose que sur un repas zéro, bah, ils prêtent pas de com, donc c'est zéro aussi. Donc ils sont pas payés. Et puis nous, c'est prix coûtant, c'est-à-dire qu'on prend pas de marge sur les livraisons. Ça nous permet quand même bah, de pouvoir proposer un tarif très compétitif pour la livraison. Et ça permet surtout de payer les transporteurs qui, eux, font le travail et qui ont des salariés à payer. Et si on leur paye pas le travail, ils peuvent pas payer les salariés.
Ouais, comme tu le disais, en plus les salariés, même si ils sont de bonne volonté, ils font aussi partie déjà de l'effort actuel et ils méritent d'être payés.
Voilà, donc je pense que c'est Deliveroo qui paye pour finir. C'est mon client Deliveroo qui fait cet effort financier pour que les soignants soient livrés en nourriture tous les jours. Gracieusement.
Je vois en fait dans les colis qu'on se fait potentiellement livrer ici une sorte de, tu vois, quand t'es, moi je suis assez strict sur le confinement quand même et en fait t'as quand même, c'est un peu bizarre, mais cette espèce de truc qui vient de l'extérieur qui arrive chez toi et tu vois cette espèce de truc où tu dis Je me lave les mains quand je touche un carton, ça me limite, tu sais, t'as envie de le brûler tout de suite après derrière. qu'est-ce que, je sais pas, tu connais un peu les risques ou les choses, ou les est-ce qu'il y a des attentions particulières faites à tout ça, ou est-ce que c'est juste une sorte de psychose? Mais tu vois un peu cet élément de l'extérieur qui vient.
Ah oui, clairement. Puis alors moi, je suis parano total, donc je suis pas du tout la bonne personne pour te rassurer. En revanche, j'ai pas eu d'informations top secrètes qui sont venues du ministère ou quoi que ce soit, parce que je fais partie de la chaîne logistique. J'ai juste appliqué les recommandations qui sont publiques sur le site des différents ministères, type santé, transport, etc. En gros, il vaut mieux donc pas de contact à la livraison, c'est-à-dire que se faire laisser la commande à la porte, attendre que le livreur soit parti pour ensuite récupérer les sacs. Les sacs, il faut les laisser tranquilles pendant quelques heures. Je peux pas te dire en fonction de la matière combien de temps, j'en ai aucune idée. Je suis pas du tout.
Il y a des articles qui en parlent. Ouais.
Voilà, c'est ça. Il y a des articles et des recommandations gouvernementales. En revanche, ce que moi je fais perso, et ne rigole pas, c'est que je désinfecte chaque produit avec une lingette antibactérienne.
D'accord.
Et que je jette tous les packagings et que je les laisse ensuite sécher pendant quelques heures avant de les ranger au frigo dans les placards. Et je jette tous les sacs et tous les packagings. J'ai fait rentrer une espèce de corps étranger dans ma demeure et dans mon foyer. Ça me fait peur, pas seulement pour moi. Et donc, j'essaie au maximum de réduire les risques. Et donc, j'ai des gants, je nettoie tout, je renettoie tout et j'attends que ça sèche avant de mettre ou ça s'évapore ou je ne sais quoi. C'est assez, c'est plutôt psychologique tout ça, mais voilà.
Ça va, moi je suis un psychopathe déjà avant et j'enlève déjà tous les packagings avant de mettre tout au frigo. Je déteste avoir un truc
Au
frigo rangé avec un carton. Je comprends pas l'intérêt de
jeter moi non plus.
Ce qu'on peut jeter maintenant.
J'ai dit à ma fille d'ailleurs, tu vois qu'il faut se laver les mains. Tu vois, quand tu rentres à la maison, tu te laves les mains.
Et tu vois, ça marche très bien. Je pense que là, il va y avoir aussi un avant et un après sur le lavage de mains des enfants.
Sur l'hygiène, top.
Tu parlais de magasins fermés ou de magasins qui commencent à rouvrir ou de. On voit un peu des évolutions là-dessus sur. Je sais pas, le non alimentaire. Parce qu'en effet, après, il y a des magasins qui ont fermé, mais qui se retrouvent quand même dans une sorte de concurrence déloyale entre guillemets, parce que un magasin ou une enseigne bien armée sur son e-commerce finalement continue à faire du business, à vendre des vêtements, à vendre des meubles, à vendre un certain nombre de choses. Les meubles, je sais pas d'ailleurs, j'ai pas commandé de meubles, hein, mais ni de vêtements d'ailleurs, mais en l'occurrence, c'est quoi la tendance là?
Alors donc les enseignes qui font déjà du e-commerce, il y a ceux dont les magasins sont fermés et ceux dont l'entrepôt tourne encore. Mais c'est compliqué parce que dans l'entrepôt, il y a des gens qui, il y a des ressources qui sont plus disponibles. Certains sont en arrêt, d'autres en chômage partiel parce que l'activité a baissé, etc. Donc, ça tousse un peu. Les magasins, ils sont fermés. C'est un manque à gagner énorme. Toute l'infrastructure financière tout le squelette financier, les flux, en fait, qui font qu'une enseigne fonctionne sont coupés. Et donc, c'est un risque de faillite, quoi. Il y a un moment, ça coûte quoi de pas travailler en fait. Et donc ce qui se passe, c'est que depuis la semaine dernière, je pense qu'il y a eu une période de sidération de 15 jours, tu vois, des enseignes qui ont des magasins fermés, et tout le monde a un peu réfléchi. Et puis là, depuis une semaine, je vois des initiatives d'utilisation des magasins comme finalement lieu de préparation de commandes, au lieu d'être des magasins qui reçoivent des clients, exactement comme la cuisine d'un restaurant finalement. Ce que je prêche depuis 6 ans, hein, Matt. Partie de son magasin qui est conçu pour préparer des commandes, pour faire des expéditions de livraison à domicile. Enfin bon, je vais pas dire que j'avais raison et j'ai pas invoqué une pandémie, tu vois, pour pouvoir avoir raison. Donc
c'est toi.
c'est tout toi. Ça de ma faute.
C'est Delivery qui avait commandé ça.
J'ai invoqué. donc il y a des initiatives de certaines enseignes pour faire par exemple du drive. Donc le magasin est là pour préparer des commandes qui sont passées en ligne ou au téléphone et le client il vient et il retire sa commande en voiture exactement comme il le ferait dans un drive alimentaire.
Mon primeur, mais en l'occurrence sur d'autres typologies de commerce. Ouais. D'accord, très bien.
Et ils font la même chose aussi pour aller au-delà parce que le drive ça ne suffit pas parce qu'il faut quand même réussir à convaincre le client de venir jusqu'au magasin soit à pied soit en véhicule et donc ils se disent il faut qu'on fasse du ship from store aussi. Donc nos magasins vont servir à faire des préparations de commandes. Il va y avoir des vendeurs volontaires qui vont pas être des vendeurs conseillers sur le floor, mais qui vont être des vendeurs préparateurs de commandes finalement. Et puis il va y avoir des clients qui vont commander en ligne sur le site. Il va y avoir un petit court-circuit qui va être fait sur le front, sur les écrans du site pour que ce soit de la livraison dès par magasin, une petite bidouille entre guillemets. Et la petite bidouille, elle est plus ou moins compliquée à mettre en œuvre en fonction de la capacité technologique des enseignes. et de si leur agence technologique est disponible ou pas, hein, d'ailleurs. Et puis ensuite, derrière, bah, les clients, ils vont se faire livrer à domicile, quoi. Alors que ce sera au départ du magasin.
OK.
Et donc, la livraison à domicile, départ magasin, ne vient pas à une solution de livraison complémentaire ou alternative, ça devient la seule qui existe.
Mais oui. Oui, oui, c'est ça. Mais du coup, après, c'est vrai que le message qu'il faut peut-être pas faire passer, c'est voilà, c'est reparti. Enfin, on a quand même aussi une responsabilité commune en ce moment qui doit peut-être un peu déconsommer. À la fois, je partageais toujours évidemment sur ce, c'est-à-dire qu'on veut pas que tout s'arrête et on veut quand même que ben nous, nos clients, e-commerçants, commerçants, etc., continuent à vivre quoi. Mais est-ce qu'on doit pour autant recommander à tout le monde de recommander, comme je disais, chez H&M, chez Zara ou chez le marchand de meubles du coin ou d'articles de sport? Peut-être pas quand même, parce qu'il y a quand même un peu une responsabilité de ne pas faire repartir une activité humaine à gogo.
Écoute, moi je suis, peut-être qu'on va me traiter de ultra-libéral, mais il faut qu'on fasse tourner le commerce. Sinon le commerce, il meurt. Mmh. Le commerce, il s'arrête quelques semaines, quelques mois, il meurt. Donc il faut que ça tourne. Et c'est pas parce qu'on est confiné que la vie ne s'arrête pas. Tout le monde prend des cours en ligne de sport. Il y en a qui savent très bien faire du sport pour soulever entre guillemets leur propre poids, tu vois, avec des exercices sans matériel. D'autres, ils ont l'habitude de faire du sport avec du matériel. Si tu peux te faire livrer ton matériel de sport, si tu peux te faire livrer ta Colforte parce que t'en as plus pour réparer quelque chose à la maison au lieu d'aller le racheter justement dans un magasin, bah fais-toi livrer ta colle. Enfin, tu vois, voilà, moi je suis un peu partisan de faire tourner le commerce. J'ai toujours prêché pour le ship from store, c'est ce que je fais depuis le premier jour, parce que ça fait tourner le magasin et pas seulement l'entrepôt lointain. Donc ça bénéficie au commerce de proximité. Donc moi je suis à fond pour évidemment faire de la livraison départ magasin. Je prêche pas seulement pour ma paroisse, je dis juste que si le commerce ne tourne pas, le commerce meurt, et donc faut faire tourner son commerce.
OK.
Quel que soit le type de marchandise.
Non, mais j'entends, et en effet, c'est une position qui se défend d'un point de vue en effet économique. C'est vrai qu'on est aussi sur un et ça, moi, je vais pas m'aventurer sur le côté scientifique et notamment de la santé et voilà. Tu me sens patiner là un peu sur ça.
Non, mais tu vois, c'est parce que c'est délicat. Ouais. D'un côté, tu dis bon bah ça permet de faire un peu moins de surconsommation inutile, et en même temps il faut que tes magasins ils puissent survivre, donc oui.
Non, mais je sais, je sais.
C'est un tiraillement, tu vois.
Ouais, je sais. Et évidemment, je suis toujours aussi partagé parce que en effet, je pousse les gens à keep pushing, mais en effet sur la consommation, je pense qu'il faut être un peu raisonné. Mais continuer à prendre ce dont on a potentiellement besoin. Toi, tu es confiné en région parisienne. Tes équipes, vous êtes quoi, une grosse vingtaine, je crois, hein, chez Delivery aujourd'hui ?
Ça, on est 23, ouais.
Ouais. Et donc, vous aviez l'habitude déjà de bosser à distance ?
Oui, on est. On a eu de la chance dans la malchance, c'est-à-dire qu'on est une petite boîte. Deuxièmement, c'est une boîte Delivery qui est très processée. Je ne sais pas si ça se dit, mais on a mis beaucoup de procédures en place qui sont documentées, écrites, avec des étapes, etc. pour quasiment tous les métiers de la boîte.
Ce qui change tout en ce moment, mais ce qui est aussi le propre à ton type d'activité. Nous, on y vient plus tard dans une boîte comme Cosa Vostra, mais en l'occurrence, tout ce qui est logistique, si t'as pas de process, c'est mort en fait. C'est mort.
Bien sûr, mais attends. Ouais, dans la logistique, mais je te parle même pas de ça. Je te parle vraiment au niveau organisation et gouvernance. L'onboarding de quelqu'un qui vient de l'extérieur, on a des étapes. Avec une checklist de ce qu'il faut faire pour l'accueillir, que ce soit, si je prends ça comme exemple, hein, l'onboarding, que ce soit sur le pot de bienvenue, comme la création des comptes, tout ce qui est administratif et paye, l'enregistrement sur les logiciels, enfin tout ça, c'est on a des checklists pour ça, avec des étapes à franchir pour s'assurer que l'onboarding est bien fait.
T'as mis la répartition de pour le Moscow Mule dans le pot de bienvenue, ou tu... Pas jusque là.
Ah, le dosage pour le cocktail.
Le dosage. Ouais.
Non, parce que bah, tout le monde n'a pas les ingrédients. Donc, on a mis en place, mais ça c'est encore quelque chose qui est propre au confinement. On a mis en place ce qu'on appelle l'apéro remote. Tous les jeudis, d'habitude, on faisait un apéro avec les gens au bureau. Et puis là, bah, c'est l'apéro remote. C'est un apéro en remote. On se connecte tous comme les copains font sur House Party, l'appli. Et puis on prend l'apéro. Puis chacun a l'alcool qu'il a sous la main ou pas d'ailleurs, parce que on ne pousse pas la consommation d'alcool, n'est-ce pas? Mais chacun boit ce qu'il veut, et donc c'est pas forcément un Moscow Mule avec le dosage qui est écrit par Mickaël, le psychopathe, pas du tout.
Eh ben, écoute, nous, il a été mis en place, en l'occurrence, par l'équipe. Tu vois, il est né par lui-même le vendredi soir, en effet, et il est fait sur Zoom, je crois, ou Hangout, mais et c'est très sympa. Je dois te dire qu'en effet, c'est assez cool. Et ça vient en effet sur les questions, parce que il faut bien faire la différence entre travailler en remote et travailler confiné. C'est pas exactement pareil. C'est quoi, toi, je sais pas, tes apprentissages? Comment ça évolue? Comment tu manages des équipes confinées? C'est quoi tes apprentissages? Qu'est-ce que tu peux me donner comme, je sais pas, conseil ou tips?
Il y en a quelques-uns, effectivement. Hein, et puis j'ai appris aussi sur le tas, comme tout le monde. Hein. D'abord sur le remote. Nous, pour répondre à ta première question, on est habitué au remote. C'est juste qu'on n'était pas habitué à être tous en remote au même temps. Donc là, on avait des routines de remote avec des remotes optionnels, des remotes perso qui sont programmés, etc. Quand les gens voulaient être concentrés chez eux, quand ils avaient une obligation personnelle, ils pouvaient travailler de chez eux, etc. Donc on était, disons, rompu à l'exercice, et on avait des outils qui nous permettaient de travailler en remote comme il faut. En même temps, là, le confinement, c'est le remote forcé, et c'est tout le monde en remote en même temps. Donc, effectivement, on a dû ajuster un peu nos méthodes. Pas tant que ça, finalement, mais on a découvert 2-3 choses intéressantes dans les 3 semaines passées qu'on a mis en œuvre progressivement. Bon, d'abord, tout le monde en remote, on a essayé tout simplement de répliquer nos points de rencontre, si tu veux, ou nos moments de gouvernance de manière virtuelle. Donc, tous les stand-up quotidiens par équipe, je sais pas si les stand-up, c'est quelque chose de commun, mais la petite réunion d'un quart d'heure le matin en disant qu'est-ce qu'on a fait hier, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce qu'il y a un truc qui bloque par équipe, ça s'est maintenu. On a des réunions hebdomadaires et des one-to-one hebdomadaires entre managers et membres des équipes. Et comme on est une petite boîte, encore une fois, c'est facile de faire ça avec tout le monde. Hein. On n'est pas 1000, on est 23, encore une fois. Voilà. Donc, tout ça, on l'a maintenu et on l'a fait à distance au lieu de le faire en vrai. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que on a tous les outils classiques pour une startup pour travailler, donc les Slack, les Hangouts, les Trello et ce genre de choses pour communiquer, travailler sur des projets. En revanche, on a très vite vu qu'il fallait surtout se parler beaucoup plus qu'avant, mais vraiment beaucoup plus, parce qu'en fait, il y avait une tendance déjà naturelle à faire des messages en Slack plutôt que de se téléphoner. Pour les gens qui n'étaient pas l'un avec l'autre, là il y a personne qui est au même endroit, donc on peut pas se lever de sa chaise et aller voir la personne qui est dans la pièce d'à côté en disant attends, t'as pas bien compris ce que je t'ai écrit, etc. Et là, au début, la première semaine, il y avait un réflexe de continuer à essayer de faire comprendre son message ou ce qu'on veut dire en écrivant. Et donc on a dit stop à tout ça. On a dit le premier réflexe, c'est de se parler, c'est d'entendre l'intonation de la voix, c'est de se faire comprendre et d'avoir un retour de compréhension, un acknowledgement comme on dit en anglais, que ça a bien été compris ce qu'on voulait dire, qu'il n'y a pas de malentendu, quoi.
Hein, je suis complètement complètement aligné, Mickaël, parce que en effet, nous on l'a vu, et je pense qu'il y a aussi, au-delà du malentendu, il y a aussi en fait un besoin aussi, une compensation, et je le promeux aussi beaucoup pour ceux qui sont abonnés à la newsletter de Génération Do It Yourself et ailleurs, mais de le faire aussi en perso d'ailleurs, c'est les textos, les SMS, les choses, c'est bien, mais appeler, il y a House Party qui a cartonné, on en a parlé, mais ou d'autres choses, même juste du visio, mais aussi de l'audio, ça recrée du lien. Et moi, je crois aussi, pour aller plus loin, j'ai pas encore complètement réussi à gagner là-dessus, mais j'essaye de réintroduire un peu d'informel. Parce que je pense que dans l'informel, tu crées des choses merveilleuses. Sinon, on serait dans un monde qui serait uniquement régide par des machines, en fait, entre guillemets. Quand je m'exprime autrement, mais une des choses sur lesquelles nous on est assez fort, c'est que je fais souvent moi des déjeuners avec des personnes, mais nous notamment mes associés, mais pas que, hein, et d'autres personnes. Et en fait, pendant ces moments-là, tu ne parles pas que de... Quand tu as une réunion, tu parlais même de réunion quotidienne là sur un projet, il y a quand même des objectifs avec ce que tu as dit la veille, tes engagements, ce que tu dois faire aujourd'hui, etc. Il y a un côté, tu laisses assez peu de chance au hasard, à la créativité. Quand tu te fais... là où je te dis j'ai pas eu gain de cause, c'est ce déjeuner avec mes associés pour l'instant, pour commencer, et puis après avec d'autres personnes. Je voudrais vraiment déjeuner virtuellement pour dire, bon, on parle des 2-3 trucs au début, et puis finalement, après, on a de toute façon 40-45 minutes pour juste partager deux trois choses, remonter aussi des infos sur lesquelles qui sont moins formelles et moins formatées quoi.
Bah, écoute, clairement, je suis 100% d'accord avec toi et on le fait nous systématiquement en fait. J'ai mis en place deux choses. Un, on a un channel qui s'appelle Machine à Café sur Slack. avec un appel qui est tout le temps, constamment ouvert, un Slack call qui est tout le temps ouvert, en fait. Et donc, c'est comme au bureau. Quand tu vas à ta machine à café prendre le café, qu'il y a quelqu'un d'autre, bah, tu parles avec lui, en fait. Et tu parles de ta dernière série Netflix que tu as vue. Ne me spoil pas. Et puis, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Alors, c'est peut-être plus les mêmes questions qu'on se pose, mais voilà, les gens se parlent quand ils font une pause café sur le channel Machine à Café. Ça, c'est un, pour que l'informel subsiste un peu entre eux. Deux, effectivement, dans le sens de ce que tu viens de dire, et sur la surcommunication qu'il faut avoir, à chaque fois qu'on se connecte à plusieurs, etc., il y a un bon quart d'heure où on raconte n'importe quoi, on s'épanche, on se demande comment ça va, on parle un peu de nos inquiétudes, enfin, ça, je les laisse parler, en fait, et puis ils s'expriment et ils parlent entre eux, et j'interromps jamais pour dire, bon, allez, on se met à faire la réunion. Ça fait que la réunion, elle dure un peu plus que d'habitude, mais bon, ça vaut vraiment le coup.
Vous êtes payé.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, tiens, c'est quoi ce bordel? Vous êtes payé. Ça, c'est aussi un des effets du confinement. C'est que les gens sont beaucoup plus focus parce qu'ils sont beaucoup moins dérangés. Ouais. Et donc, ils sont beaucoup plus productifs. Et ça, c'est spectaculaire. Vraiment, la sociabilité au travail, c'est génial pour le moral. Et le moral fait la productivité, finalement. Mais en même temps, quand t'es vraiment focus avec ton casque sur la tête chez toi pour faire quelque chose et que t'es pas interrompu parce que t'as quelqu'un qui a une question, c'est donc encore plus productif finalement.
Cette période me fascine parce que ce que tu dis, c'est vrai, et je pense qu'il y a tout et son contraire dans tout. Tu vois, j'allais te dire, tu vois, j'ai jamais eu autant, je crois, que la semaine dernière de félicitations de clients pour mes équipes ou directement aux équipes. Voilà, donc certains sur lesquels c'était vraiment pas gagné. On se demande d'où ça sort, mais
carrément,
quand je dis que c'était pas
carrément.
Gagné, c'est des gens qui, tu vois, qui sont généralement plutôt avares en compliments, confirmés par leurs équipes, tu vois, et qui vont m'envoyer ou envoyer un mail à un de mes associés en disant c'est formidable, etc., etc. Et à la fois aussi, on a des moments où faut gérer un peu l'inverse. Quand je dis que c'est plein de paradoxes, c'est que tu as des gens qui sont sous pression parce que chez eux, confinement pas facile, etc., qui peuvent péter un câble. Et donc, faut aussi être capable de choses sur lesquelles moi, je suis pas. Enfin, tu vois, quand quelqu'un pète un câble sur de mes équipes, je suis pas très à l'aise, ça me plaît pas trop. Et par moments, en fait, faut juste prendre un tout petit peu de distance. Et essayer de comprendre pourquoi on pète un câble et si c'est vraiment les bonnes raisons ou si c'est d'autres raisons quoi. Mais je trouve ça fascinant et à la fois, tu vois, on n'a jamais été aussi près du déconfinement. À la fois, on rentre dans la semaine 4 le jour où on se parle là, et tu te dis c'est quand même dur quoi. Alors c'est plus dur pour certains que pour d'autres, mais souvent le boulot aussi est potentiellement une échappatoire hein,
écoute, ça me fait penser à deux choses. Un, effectivement, j'ai beaucoup de clients qui sont reconnaissants, qui font des éloges directement à leurs interlocuteurs chez moi. Et ça, c'est génial parce qu'avant, effectivement, pas beaucoup. Et là, énormément. Donc déjà, en termes de gratification, tu vois, pour ton travail, c'est énorme. Vraiment, je voudrais tirer mon chapeau aux gens chez moi, sans juste faire comme tout le monde, disant bravo, courage, tout ça. Juste, ils font un travail remarquable, ils comptent pas leurs heures alors qu'ils sont chez eux, et ils se font féliciter par leurs clients, et ça, c'est fantastique, parce qu'ils le méritent, tu vois, ils bossent dur. On est dans un moment où on est sursollicité, où les ressources dans certaines régions ou dans certains formats se font rares, et donc faut vraiment trouver, temporiser, mettre en place, tu vois, des fail-safe, genre des créneaux imposés, et non plus du YOLO on demand, tu vois. Et donc,
YOLO on demand.
c'est un peu, tu vois, la livraison en un quart d'heure magique avec n'importe quel type de transport, c'est voilà. Là, tu vas attendre un petit peu, tu vois, en ce moment. Ils se font féliciter en direct par les clients, et c'est pas les clients qui me disent à moi, et ensuite, je passe le mot aux deux équipes, genre, ah, j'ai eu le chef d'un tel qui vous dit merci. Non. C'est au téléphone, ah mais vraiment bravo, vous m'avez sauvé la mise, c'est génial ce que vous faites. Vos livreurs, ils comptent pas leurs heures, patati patata. Donc ça, c'est génial. Ensuite, c'est vrai que quand tu fais j'ai perdu le fil de ma pensée, c'est tellement dommage.
Ah bah alors,
j'avais un deuxième rebond.
Ça va revenir.
Ouais.
Moi, je vais te reprendre sur le YOLO on demand parce que ça c'était avant, mais c'est aussi intéressant de voir. À quel point t'es moins exigeant. C'est-à-dire que moi, justement, là où je suis, j'ai fait un ou deux drives Et avant, quand tu n'avais pas, tu vois, trois articles, tu avais envie de tout casser en mode « Putain, il n'y a pas de Coca Zéro !» Genre, vraiment en mode… et puis là, tu n'as pas le tiers de ta commande et puis tu te dis « Bon, c'est cool, déjà… j'ai des patates, quoi, donc c'est bien. »
Bah oui, maintenant, ça rejoint aussi ce que tu disais sur, oui, au téléphone, je veux 3 kilos de pommes de terre ou je veux 3 pommes, etc. Tu ne demandes pas le prix, hein. Tu ne dis pas, c'est combien de kilos votre pomme, gala, là ? Non, en fait, tu t'en fiches du prix, tu veux juste manger, quoi. Tu vois, tu ne fais pas attention au prix non plus.
Non, c'est vrai. Et puis, par email ou au téléphone, en effet, tu fais ça. Et après, tu vois que les prix sont bons, les produits sont bien faits, etc. Et les commerçants responsables font bien leur job. Et en fait, pas délirant. Je trouve que non, la période est humainement assez dingue sur plein de perspectives. Je pense que on a quelque chose qui promet. J'ai juste peur qu'on dise tous ça et que demain tout reparte comme hier. Mais
j'ai un avis là-dessus aussi. Je rebondis sur justement, j'ai retrouvé mon deuxième point sur ce que tu disais sur l'échappatoire du travail. J'ai plusieurs cas dans mon équipe. Tu vois, justement, où ils ont eu un impact perso à cause du confinement, sur comment eux, ils se comportent. J'ai quelqu'un qui s'est noyé dans son travail, qui travaille 7 jours sur 7, alors que cette personne aurait très bien pu déléguer certaines tâches, faire confiance aux autres membres d'autres équipes pour leur déléguer, tu vois. Et cette personne, non, en fait, elle a tout pris pour elle. Et donc, là, cette semaine, on a découvert, elle nous l'a dit qu'elle était débordée, qu'elle en pouvait plus, elle était au bout de sa vie, tu vois, entre guillemets. Et en fait, c'est parce qu'elle s'est noyée dedans. Elle voulait pas lâcher pour être sûre que ça se passe bien avec ses clients, etc. Et cette personne, elle était en train de faire un workaholic, en fait. Même samedi, dimanche, tu vois. Et voilà. Et donc, on l'a identifié avec elle. On a mis en place des modifications dans les procédures. La délégation, on l'a aidé. C'est quelqu'un qu'on a aidé à déléguer certaines missions, certaines tâches à d'autres membres de la boîte. Et bon, on la soulage, tu vois, et tout va revenir.
Comment tu l'as identifiée ? C'est elle qui est venue vers toi ?
On a vu de l'activité alors qu'elle devrait pas en avoir sur sur le week-end, sur les messages, sur Slack, etc. Donc même le dimanche où c'est pas vraiment c'est pas quelqu'un qui devrait travailler le dimanche. Et puis au détour d'une conversation justement totalement informelle en mode hashtag machine à café. On a appris qu'elle faisait des choses qu'elle n'avait pas du tout à faire, qu'elle aurait pu confier à quelqu'un d'autre, et que c'était l'apanage de quelqu'un d'autre.
Parce que ce point, cette question, elle est importante, hein, parce que la difficulté, c'est de l'identifier. Moi, c'est ma hantise en ce moment. C'est, tu vois, sur ce call daily, ce matin, je disais à un de mes associés, tiens, un tel, il a quand même une mauvaise tête. Il a pas l'air très bien. Derrière, on essaye d'appeler pour essayer de comprendre. On en voit d'autres qui ont des proches qui sont affectés par le Covid et on sent que voilà. Et en fait, ma hantise, elle est de laisser quelqu'un dans son coin qui a ses problèmes. Et en fait, c'est pas facile de les voir parce que souvent, en effet, c'est à la pause club, à la machine à café ou à quel truc que, au détour d'une conversation, quelqu'un te dit, je crois que machine ou machin. En ce moment, c'est pas voilà. Et
voilà, d'où l'importance de surcommuniquer sur l'informel, etc. C'est un très bon moyen et de absolument d'avoir soit toi soit un manager de chaque team ou de chaque pôle qui a des conversations verbales, orales, au téléphone ou en call avec chacun des membres de son équipe tous les jours, parce que tu sens aussi dans la voix si ça va pas. Moi, j'ai des gens qui ont eu des baisses de morale, je les ai rassurés que tout se passe bien, qu'on on est quand même, tu vois, on est approvisionné, on est chez soi, on est avec des gens qu'on aime, tu vois, on a le temps de s'occuper de soi-même. Enfin, t'essaies aussi de donner de l'espoir, quoi. C'est pas juste, on n'est pas des robots, quoi. Donc, c'est essentiel, effectivement, essentiel.
Et cette limite est très dure du perso pro, etc. Où est-ce qu'on peut, en ce moment, je trouve qu'elle est plus dure que d'habitude. Moi, d'habitude, je suis dans ma zone de confort, je sais, je rentre pas trop dans le perso, mais bon, voilà, là, tu vois, j'ai envie de dire à tout le monde, faites attention, buvez pas trop d'alcool. Tu vois, c'est les premiers épisodes de ce podcast, on laissait un peu en se marrant ce message de dire, ouais, bon, on picole un peu tous les jours, etc., etc. Mais en fait, ça m'a fait marrer une semaine, mais au bout d'une semaine ou 10 jours, je me suis dit, non, mais en fait, faut que t'arrêtes, tu vois. Et j'essaie de faire passer un message différent, mais de se dire, il faut se maîtriser vachement maintenant parce que sinon, on va finir tous alcoolo
et obèse,
exactement.
Attends, on fait des recettes de cuisine le lundi soir. On fait des recettes de cuisine, tu vois, comme on fait l'apéro le jeudi. Moi, j'ai fait des acras de morue lundi de la semaine dernière. J'ai mangé 1 kilo d'acras de morue, tu vois, dans la soirée, quoi. Enfin, j'en ai fait trop, j'avais aucune notion des quantités, tu vois.
Je croyais que c'était, je crois que tu nous donnais un conseil pour pas être obèse, mais un kilo d'acrylamide.
Bah non.
Bien sûr que c'est un bon conseil.
Malheureusement, tu vois, comme ça, en plus, c'est un besoin primaire. Tu surstockes, tu surachètes. On peut dire ce qu'on veut, mais tout le monde a plus que d'habitude dans ses placards, dans son frigo. Ouais. Et donc, tu ouvres le frigo plus souvent et tu manges plus. C'est la vérité. Et voilà. On va tous être un peu plus obèses. Ça me fait penser à cette scène dans Wall-E, le dessin animé de Disney, là, tu vois, où on voit les humains sur leur pod volant, là, tous obèses avec des télécommandes. Voilà. On va finir comme ça. Ouais, c'est ça. Puisqu'on va sortir dans un an, de toute façon.
Et encore, on peut pas acheter d'armes parce qu'on aurait d'autres besoins naturels à assouvir comme les Américains potentiellement.
Ouais. Non mais ça c'est des gens qui sont très prévoyants et c'est des gens qui sont très prévoyants et qui veulent pas que quand ça va être Walking Dead aux États-Unis, tu vois, tellement ils font n'importe quoi, il va falloir se protéger des autres humains en fait. Tu vois, donc ils ont anticipé. Ouais.
Ok, on va partir loin.
Scénario catastrophe.
C'est ça. Écoute, non, c'est en tout cas intéressant de voir un peu la manière dont vous avez et toi géré tout ça. Il y a des choses, toi, que tu arrives à faire du coup pendant le confinement, que le confinement te permet de faire et que t'as pas le temps de faire en temps normal.
Alors c'est un peu idiot, mais moi ma femme est enceinte. Donc déjà je faisais un peu plus à la maison que je faisais d'habitude. Là je fais beaucoup plus parce que je veux justement la protéger un maximum, donc c'est moi qui sors beaucoup plus qu'elle, je fais beaucoup plus de choses à la maison en ce qui concerne les tâches ménagères, etc. Et puis ce qu'on a pu faire, c'est un vrai nettoyage de printemps qu'on n'aurait jamais fait aussi poussé en temps normal, quoi, avec nos agendas respectifs. Donc là ma maison est nickel. voilà.
Le ménage, je te confirme, c'est quelque chose que j'ai redécouvert.
Et le rangement
entièrement.
Et le tri, enfin.
Et le rangement, mais avec des podcasts sur les oreilles, en l'occurrence. Voilà.
On s'instruit en même temps. Moi, j'écoute des audiobooks.
Exactement. Moi aussi, je parlerai prochainement. Thomas.
Et puis, un peu plus professionnel, ça m'a permis aussi de mettre beaucoup plus de routine en place parce qu'en fait, on est confiné, donc, et c'est quelque chose que j'ai transmis aussi à mes équipes. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on se lève pas tôt, qu'on prend pas sa douche, qu'on se rase pas, qu'on s'habille pas pour aller au travail, etc. Donc on met en place des routines, on essaie de conserver des réflexes d'une activité et pas juste comme on est à la maison, on reste en pige, quoi, on reste en pyjama, tu vois.
Ah, c'est ça. C'est
voilà, donc j'ai mis beaucoup de routines en place. J'ai aussi pu prendre beaucoup plus de temps justement pour pouvoir interagir et parler, converser avec mon épouse. On a un petit déj qui est un peu plus long que le zéro petit déj que je fais le matin en partant en courant travailler. Donc on s'assoit, on prend le petit déjeuner ensemble, on discute, on parle du futur, tu vois, c'est j'ai renoué beaucoup avec ma femme, quoi, voilà, c'est indéniable.
C'est bien, c'est beau, c'est beau. Écoute, je suis très content pour vous déjà. Et puis oui, non mais en effet, je pense qu'il faut savoir se lever, se raser. T'as raison. Moi j'ai une apparition de moustache très inquiétante chez Cosa Vostra. J'ai peur qu'une mode moustache Covid soit en train de naître.
Moustache, c'est pas grave. Le problème, c'est la barbe hirsute. La moustache taillée, c'est cool.
Ouais, non, mais c'est vrai, mais c'est en train de devenir n'importe quoi. Je songe à me laisser pousser la moustache, tu vois. Bon, écoute, on raconte beaucoup de conneries. Je crois qu'on va plier cet épisode. Michael Lévy. Alors, on te trouve sur LinkedIn, notamment. Par exemple, on tape Michael Lévy, Michael Sidney Lévy, je sais plus, du coup, sur LinkedIn.
Ouais, Michael Sidney Lévy, c'est plus pratique parce qu'effectivement, voilà. Comme tu l'as dit, il y en a beaucoup. Donc, là, on me trouve, je suis le seul. Voilà.
Michael, c'est CH, hein.
C'est ça.
CH, Michael, CH, Lévy, L-E-V-Y, et Sydney comme Sydney Houston, quoi, par exemple, ou comme la ville. Deliver.ee, je te remercie pour ton temps, tous tes conseils. Je te dis bon courage, et moi aussi, je pense que c'est important ce que vous faites, et tu félicites tes équipes, et puis soyez forts dans cette période, keep pushing, et puis je te dis à bientôt, mon cher Michael.
Merci beaucoup, Matt. À bientôt, ce sera transmis.
Je suis impatient de déjeuner avec toi chez Fratelli, par exemple, la prochaine fois qu'on pourra. À tous, je vous remercie de vos messages. J'en ai toujours plein, toujours plus. Je suis toujours plus content encore. Donc, c'est cool sur ces épisodes comme les épisodes du dimanche. On maintient les écoutes finalement. Certains d'entre vous m'ont dit oui, je suis sûr que ça va se faire. Et ça se fait. Ça, je crois que ça. On a repris de la croissance en mars. J'espère qu'on va la tenir en avril dans cette période qui est fascinante autant qu'effrayante pour certains. Et voilà, je vous souhaite un bon confinement toujours. Soyez prudents, prenez soin de vos proches et appelez-les vos proches, collaborateurs et proches dans la vie plus souvent. Je vous embrasse et à bientôt sur Génération Do It Yourself. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait intéresser un de vos proches, je compte sur vous pour lui partager. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Génération Do It Yourself sur gdiy.fr et d'aller regarder ce que font mes sponsors qui me font l'honneur de m'accompagner en temps de crise. Allez, on continue à se battre.